Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique Les actualités de l'histoire, Dave Noël revient sur les mésaventures de la Grande Hermine, ou plutôt de la réplique de ce navire amiral de Jacques Cartier, installé il y a 50 ans au parc Cartier-Brébeuf. Elle n'y est plus, évidemment. Sitôt arrivé à Québec, le vaisseau sombra dans les eaux. Dave vante ensuite la mise en ligne des superbes photos historiques du musée McCord et souligne le début de l'année René Lévesque à l'occasion du centenaire de la naissance du grand premier ministre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez les mois.
Bonjour Patrick Belrose.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme ça, Patrick, il y a un Templier qui se présente au Parti libéral du Québec.
Oui, j'aime bien ta façon de le présenter. C'est le candidat dans le château fort de l'Acadie. Donc, celui qui veut remplacer Christine Saint-Pierre, M. André A. Martin-Morin, qui, dans le fond, a été président du chapitre canadien de l'Ordre de Malte. Et je ne sais pas si tu connaissais ça, l'Ordre de Malte, avant l'article de ce matin.
Oui, ça me disait quelque chose, effectivement. Puis, parce que j'ai un oncle, moi, qui est décédé maintenant, qui venait de Malte et qui m'avait déjà parlé de ces choses. Mais je sais que ça a rapport aux croisades.
Bien, exact. C'est une histoire assez particulière. Pour mettre les auditeurs un peu dans le bain, là, je te dirais qu'on est un petit peu dans le domaine du Da Vinci Code, un petit quelque chose de l'Opus Dei, là, sans la mortification de la chair.
Évidemment. Oui.
Donc, l'Ordre de Malte, écoute...
C'est catholique solide. Là.
C'est catholique conservateur à fond. Et c'est une communauté religieuse qui a été créée, comme tu disais, pendant les croisades, écoute, en 1048 à Jérusalem. Donc, ça va avoir 1000 ans bientôt.
Fascinant.
Et ça a été créé pour soigner les croisés. Dans le fond, c'est un ordre hospitalier. On voulait se soigner les pèlerins. Et l'ordre a continué à exister tout ce temps-là. Par après, c'est devenu un pays établi à Rhodes. Et ensuite, ils ont été chassés de Rhodes. Ils sont établis à Malte. Et là, aux alentours de 1800, là, c'est Napoléon qui les a chassés aux dernières nouvelles, de mémoire. Et donc, ils ont été chassés. Maintenant, c'est considéré comme un État sans pays parce qu'ils n'ont plus de territoire et de population qui est installée. Mais ça continue à exister comme un ordre religieux reconnu par le pape, par une bulle papale. Et ils ont, écoute, leurs ambassadeurs dans 120 pays.
Impressionnant.
Ça inclut la Russie, ça inclut le Canada. Ils sont reconnus comme ambassadeurs. Ils ont leur propre passeport, pas pour tous les membres, mais pour environ 500 membres. Et ils ont même un siège réservé, un statut d'observateur réservé aux Nations Unies. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier, quelque chose qu'on penserait que ça n'existe plus, ce type de société-là, je dirais pas secrète, mais mystique quasiment.
Non, c'est pas les francs-maçons, là. Oui.
Non, c'est pas les francs-maçons exactement, tout est ouvert, mais il y a quelque chose de mystique. Tu faisais référence un petit peu à tout le décorum qui entoure cet ordre-là. On a publié une photo ce matin du candidat libéral, donc M. Morin, qui participait à une cérémonie d'investiture des nouveaux membres. Et écoute, ils sont dans la cathédrale Notre-Dame à Ottawa. Et tout le monde est habillé comme des religieux, on dirait même quasiment comme des prêtres.
On a l'impression que c'est un prêtre, M. André A. Morin, à ce moment-là.
Exactement. Il porte la toge similaire à celle d'un prêtre, mais c'est pas le cas. Et donc, il procède à l'investiture d'une dame qu'on appelle. Donc, il y a les chevaliers et les dames, je me souviens bien, qui sont investis. Donc, très, très protocolaire. Et on a voulu parler à M. Morin parce qu'on se souvient que Dominique Anglade, il y a deux semaines, avait dit qu'il ne faut absolument pas que des partis présentent des candidats qui seraient contre le droit à l'avortement. Et le chapitre canadien de l'Ordre de Malte s'est prononcé en 2020, donc 3 ans après que M. Morin ait quitté comme président, mais il est toujours membre à ce jour. S'est prononcé contre l'avortement, contre la peine de mort et contre l'euthanasie. Donc, on a voulu vérifier avec M. Morin quelles sont ses convictions à ce sujet-là.
Ben oui.
Et M. Morin...
Mais il a renié les trois. C'est-à-dire, il n'appuie pas les positions de son propre ordre pour ces trois cas-là.
Écoute, c'est particulier parce que, justement, il a présidé, je le rappelle, l'ordre. Donc, s'il avait été simple membre, on me disait, ben, écoutez, oui, tous les catholiques sont contre l'avortement ou en fait font partie d'un organisme, d'une organisation qui est contre l'avortement, contre l'euthanasie aussi. Mais je disais, il a présidé quand même cet ordre-là. Mais M. Morin nous a rassurés. Il a dit, non, écoutez, il a dit clairement, je suis pro-choix. On peut être catholique et pro-choix. Quant à moi, les deux valeurs ne sont pas incompatibles. Donc après ça, c'est...
Mais lui de réconcilier les deux. C'est drôle, Patrick. Ça me fait penser à un membre de Greenpeace qui serait pour, je sais pas moi, que tout le monde ait un SUV.
je l'ai challengé sur la question. Je lui ai dit, ben, écoutez, c'est particulier. Vous avez... Moi, je peux dire, Antoine, que si aujourd'hui, j'étais membre d'un groupe qui se déclare éventuellement contre l'avortement, je disais, ben, écoutez, j'ai un malaise et je vais quitter le groupe. Monsieur Morin dit, écoutez, moi, je peux faire les deux. J'ai des convictions catholiques profondes qui font que j'ai envie de faire partie de cette organisation-là. Mais en même temps, clairement, résolument, je suis pro-choix.
C'est particulier, lui, vraiment, parce que c'est pas n'importe quoi. Moi, je viens d'évoquer Greenpeace, mais tu sais, Greenpeace, pas une religion. Alors que là, c'est vraiment une religion, là. C'est un sous-groupe religieux. Donc, je comprends même, pas cette position.
Même à l'époque où il présidait le chapitre canadien,
oui.
Il y avait le cardinal qui représente l'ordre, qui a participé à une marche contre l'avortement à ce moment-là. Il y avait aussi toute une controverse sur son ordre, l'ordre de Malte, qui avait, en fait, le numéro 3 de l'organisation se fait taper sur les doigts pour avoir distribué des préservatifs aux prostituées en Birmanie en disant, mais écoutez, ça va vous éviter d'attraper des MTS, comme on disait à mon époque, des TSS aujourd'hui, et de tomber enceinte. Donc, on voit qu'il y a des valeurs très, très conservatrices au sein de l'ordre. Mais M. Morin m'expliquait que, en fait, pour lui, son implication est vraiment plus du point de vue humanitaire. C'est un ordre hospitalier à la base, comme je disais, qui a continué à faire des missions humanitaires. C'est un peu comme la Croix-Rouge, si on veut. Donc, un peu partout dans le monde, des hôpitaux, des dispensaires, on tente d'aider les gens qui sont les plus vulnérables. Mm-hmm. Et Maître Morin lui-même a participé à des missions comme ça au Québec avec l'accueil Bonneau, à Toronto, d'autres missions pour aider les sans-abri. À Vancouver, il a aidé à donner des lunettes pour les gens qui ne pouvaient pas se payer. À Lourdes, en France, lors d'un pèlerinage, il a travaillé comme préposé aux bénéficiaires. Donc, il y a quand même tout ça qui est à son crédit. C'est-à-dire, ben, écoutez, il a fait des missions humanitaires, il y a de les gens, et c'est la raison pour laquelle il s'implique au sein de cet ordre-là. Entre toi et moi, j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose de similaire sans s'impliquer dans un ordre catholique aussi conservateur,
oui, bon point.
Mais c'est son choix, puis ça, je le respecte tout à fait.
Absolument. Il y a aussi, évidemment, que c'est un ancien procureur fédéral en chef du service des poursuites pénales du Canada pour la région de Québec. Et il a répondu à la presse. C'est ça. Il a répondu à la presse quand la presse lui a posé une question sur le fameux procès secret qui a eu lieu à la Cour du Québec, mais qui n'a pas laissé de trace, tu sais, ce procès étrange-là.
Oui, on ne sait toujours pas qui est accusé de quoi.
Et lui a dit, j'ai jamais été au courant de tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'il était procureur fédéral en chef. Donc, un candidat à suivre, hein?
Un candidat à suivre. Écoute, moi, pour te dire, je lui ai parlé, évidemment, pour le texte. Et un monsieur très sympathique qui m'a répondu très ouvertement sur ses positions. Donc, c'est à souligner, c'est apprécié de sa part. Mais c'est quelqu'un d'intéressant à découvrir au Parlement. Disons qu'un libéral dans l'Acadie, les chances sont bonnes quand même qu'on le voit au Parlement l'automne prochain.
Oui. Deuxième sujet maintenant, évidemment, on se réjouit de la fin des mesures sanitaires, mais ça se traduit par une baisse de revenus pour les infirmières.
Une baisse de revenus importante, Antoine. Écoute, je parlais avec des syndicats, avec ma collègue aussi, Diane Tremblay, on a fait le tour de quelques syndicats, et on m'expliquait que pour une infirmière, là c'est le cas d'une infirmière à Rosemont, Maisonneuve-Rosemont, ça peut représenter 1 800 $ de moins par mois. ce qui est quand même assez 1800. Important sur un, ouais, sur un chèque de paie, ça, ça paraît. Il y a deux exemples, puis écoute, même on peut cumuler les primes, là, on a pris un peu de figure, mais il pourrait en avoir plus. Deux primes qu'on a pris avec le syndicat de la FIC pour calculer ce montant-là. Il y a la prime escalier pour inciter les gens à travailler à temps plein, une certaine prime d'assiduité, si on veut. Et il y a aussi le temps double plutôt que du temps et demi pour le temps supplémentaire. Donc, on calculait, on disait, si une personne travaille à temps supplémentaire pendant cette période-là, deux jours semaine, ben, la prime de 1 000 plus environ 800 pour le temps supplémentaire, ça ferait 1 800. Et puis là-dedans, écoute, on peut rajouter une prime 4 ou 8 % pour la prime COVID. Il y a différents avantages aussi qui étaient payés. Par exemple, le repas, si on faisait du temps supplémentaire, il y avait le taxi aussi pour revenir après la fin de la journée. Et même l'accumulation d'une demi-journée de vacances par quart de travail, par quart de travail additionnel, ça fait tout un incitatif à travailler. Et là, ce que les différents syndicats nous disaient, ben écoutez, ça fait 2 ans que les employés travaillent, sont au front en raison de la pandémie, sont fatigués, sont à bout. Les gens restaient parce que il y avait ces incitatifs-là. On craint que, en les enlevant, ben tout d'un coup, le monde se dise, OK, moi, le temps supplémentaire, c'est fini. Je me repose. Aïe. Je prends des vacances. Je suis calme malade, comme on dit en bon français.
Et attention. Ça rien. Attention, tu parles à mon oncle sans, hein?
Exact. Et ça risque de mettre de plus en plus.
Il y a une expression que j'aime beaucoup au lieu de calme malade, c'est se faire porter pâle. Et que c'est joli.
Oh, ouais. C'est joli quand même.
Oui, oui.
C'est joli.
Alors, on craint l'exode, hein, c'est ça.
Ça fait très québécois, tandis que porter pâle, c'est un peu,
oui,
un peu franco-français.
Ah, ben, écoute.
Écoute, mais donc, on craint que ça mette de plus en plus de pression sur les épaules de ceux et celles qui restent au front. Surtout que les vacances s'en viennent, les vacances estivales s'en viennent. Souvent, les gens dans cet état de la santé n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu prendre des vacances comme ils le souhaitaient depuis 2 ans. Donc, on se dit, il y a peut-être un moment difficile là, qui s'en vient avec les vacances. D'autant plus qu'on sait que l'influenza fait qu'il y a beaucoup de monde dans les hôpitaux. Il y a la COVID qui fait encore que c'est encore plus compliqué dans les hôpitaux. Il y a des craintes dans le réseau de la santé présentement pour les semaines et les mois à venir.
Je comprends. Donc, merci beaucoup, Patrick Bellerose, pour ces deux résumés de textes importants que tu avais dans le journal ce matin.